Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu VVVVVV, sorti en 2010 sur les plateformes de téléchargement. Il sera comparé à l'immense majorité des jeux de plateforme, de Donkey Kong à Sonic, en passant par les différentes variations de Super Mario Bros.
Première partie, introduction et problématique.
Autant le dire tout de go, VVVVVV est sans doute parmi mes jeux favoris. Il se dégage de ce titre indépendant une aura particulière, que je ne comprends qu'à moitié, que je ne conçois qu'à peine, mais je ne peux m'empêcher d'y revenir régulièrement. Le jeu connut une très grande popularité à sa sortie et, bien que l'on n'en parle en définitive que peu aujourd'hui, il demeure l'un des meilleurs exemples de ce que le jeu vidéo indépendant est susceptible de produire. Le titre s'inspire profondément d'un grand nombre de jeux de plateforme sur Commodore 64 dont il imite le style graphique, la progression par tableau, les commandes simplifiées. Non que le jeu soit, cependant, particulièrement difficile, ou que sa rejouabilité soit immense, mais il demeure incroyablement plaisant, et sa musique, mais nous sortons ici du domaine de cette émission, est sublime pour quiconque aime les sonorités du type chiptune. Néanmoins, et depuis le commencement, une question fondamentale me traverse l'esprit. À quel genre de jeu appartient VVVVVV, que j'appellerai V6 par commodité jusqu'à présent? Bien souvent, les sites spécialisés lui attribuent l'appellation « jeu de plateforme ». Mais est-ce réellement le cas? Pour celles et ceux qui ignoreraient le principe du jeu, celui-ci vous met aux commandes du capitaine Viridian, qui doit retrouver son équipage mystérieusement dispersé dans une dimension parallèle après une singularité spatiale parce que c'est comme ça, je suppose. Pour retrouver ses amis, le capitaine se doit de parcourir plusieurs environnements dangereux et garnis de picots, que figure également le titre du jeu, grâce à un pouvoir unique. D'une pression de bouton, notre héros est capable d'inverser, à condition qu'il soit au contact d'une surface horizontale, sa gravité personnelle et peut marcher autant au sol qu'au plafond. Ce mécanisme sera réellement le seul pouvoir que le capitaine aura à sa disposition pour explorer son environnement. Il ne peut effectivement et en aucune façon bondir ou sauter dans le sens commun du terme. C'est cette particularité-là, le fait que le capitaine ne puisse pas sauter, qui m'étonna et m'étonne encore. Peut-on considérer qu'il s'agit là d'un jeu de plateforme, alors que le personnage jouable est privé du mouvement que l'on attendrait en priorité dans ce genre en particulier? Si je reprends effectivement l'approche structurelle que j'ai considérée dans ma précédente émission dédiée à la saga des Five Nights at Freddy's, cela signifierait que cette absence empêche définitivement V6 d'être considéré comme un jeu de plateforme. Cela signifierait également que tous les autres sites et sources de part et d'autre de l'internet se trompent, et je ne suis pas suffisamment orgueilleux pour prétendre me dresser comme dernier et unique rempart de la vérité. La question que je me suis alors posée était la suivante. Existe-t-il un autre jeu de plateforme où le personnage jouable ne peut pas sauter? Évidemment, cette question en appelait une autre, celle de savoir si ce mouvement de saut était nécessaire pour qu'un jeu vidéo soit considéré comme appartenant à ce genre. Je pensais volontiers à Lode Runner, un ancêtre véritable, quant à lui, du Commodore 64, mais il est indubitablement considéré, sur nombre de sites et de sources, comme un jeu de puzzle et de réflexion, et non comme un jeu de plateforme. Une fois éliminé, dès lors, ce candidat fameux, j'avoue ne pas avoir pu trouver d'autres jeux susceptibles de rentrer dans la même catégorie que V6, ce qui signifierait alors qu'il occupe sa propre catégorie ou une sous-catégorie à lui tout seul. Car bien qu'il ne soit pas le premier jeu à proposer une inversion de la gravité, tous ceux qui proposent ce mécanisme mettent également à la disposition du joueur un bouton de saut, à l'instar de Sonic the Hedgehog 3 ou Mega Man 5. Une typologie où un objet serait seul sous une étiquette est mauvaise. Des logisticiens ne cessent de nous le dire. Il nous faut alors résoudre cette incongruité et explorer davantage les principes fondamentaux de la théorie générique des jeux de plateforme et des jeux vidéo en général. En ce sens, nous poserons la problématique de cette émission comme suit. Quels sont les éléments qui nous permettent d'établir que V6 est ou n'est pas un jeu de plateforme?
Deuxième partie, quelques éléments de la théorie des genres vidéoludiques.
La question des genres dans le domaine des jeux vidéo soulève les mêmes problèmes que leur étude dans le domaine cinématographique ou littéraire, par exemple. Aussi, nous sommes en terrain théorique connu. Comme de coutume, je vais simplifier grandement les différentes idées que je reprends à ce propos et je vais tâcher de l'adapter plus précisément au domaine vidéoludique dans lequel il n'existe pas encore, à ma connaissance, de réflexion poussée sur la question. Hélas, ce n'est pas ici qu'on la trouvera, mais peut-être cette émission pourra-t-elle faire office de prolégomène agréable. Traditionnellement, on s'accorde à prêter au genre une définition positive. Le genre est perçu comme un horizon d'attente vis-à-vis de celui qui en fait l'expérience. On considère ainsi qu'une œuvre appartient à tel ou tel genre si et seulement si elle possède certaines caractéristiques faisant partie d'un cahier des charges plus ou moins strict avec des éléments nécessaires et d'autres accessoires. Cependant, il n'existe pas, bien que ça pourrait simplifier les choses quelque part, de sorte de grand culte d'esthétique qui aurait érigé, il y a de cela des temps et des temps, les caractéristiques de chaque genre que l'on pourrait un jour créer. Se pose alors cette question essentielle. D'où proviennent ces différents horizons d'attente? Si nous revenons sur l'un des premiers ouvrages traitant de la question, et sans doute le plus célèbre, soit la Poétique d'Aristote, nous voyons de quelle façon l'auteur parvient à dégager l'horizon d'attente de la tragédie, en étudiant et en comparant des œuvres qu'il juge proches en esprit. Nous avons alors ici deux premiers éléments concernant une typologie générique. Tout d'abord, il s'agit avant et surtout d'une esthétique de la réception, et non de la production. Ensuite, ces éléments se doivent d'être universellement présents dans toutes les œuvres étudiées. Bien souvent, Aristote élimine de son étude des phénomènes et des propriétés qui ne se rencontrent pas dans telle ou telle pièce, et juge alors qu'ils sont accessoires et non nécessaires. Ceci étant posé, ces questions permettent de considérer que ce qui permet d'ériger et de construire un genre a fortiori et surtout une impression. C'est grâce à elle que les œuvres seront effectivement rapprochées, mais cela implique surtout de trouver un dénominateur commun sur lequel tout un chacun pourra effectivement s'accorder. En matière de théâtre, si je reste sur Aristote, l'opposition canonique dont il se servit était du type « faire rire, faire pleurer ». Et il parvenait ainsi à opposer comédie et tragédie. En matière de cinéma et de littérature, les mêmes principes furent utilisés. Faire rire, faire pleurer, émouvoir, amuser, faire réfléchir, et ainsi de suite. À côté de ça, des variations formelles, du type l'opposition entre le vers et la prose, s'il est une découpe chapitrée ou non, et ainsi de suite, permettait d'ajouter de la formalité à ce classement fondamental. Mais peut-on réellement appliquer le même principe en matière de jeux vidéo? On peut effectivement considérer de prime abord quelques éléments formels. La vue utilisée, par exemple, entrevue de dessus, de côté ou subjective. Mais comme des jeux profondément distincts, emploient souvent la même vue, comme Doom et Skyrim. Et comme des jeux d'inspiration similaires, ont des vues distinctes, comme Super Mario 64 et Super Mario Bros. Il convient en réalité de faire de ces éléments formels un moyen de sous-catégoriser les jeux vidéo plutôt que de les catégoriser de prime abord. Mais cela implique également que le premier critère, celui de l'impression à la réception, doit être celui à privilégier. C'est-à-dire que si l'on a l'impression de jouer à un jeu de rôle, c'est que nous jouons à un jeu de rôle. Si l'on a l'impression de jouer à un jeu de gestion, c'est que c'est un jeu de gestion, et ainsi de suite. Ces impressions, cependant, ne sont pas aussi arbitraires que l'on pourrait le croire. Et autant, effectivement et théoriquement, le classement global est bien celui de la réception de l'œuvre, autant on considère aussi souvent qu'est pris en ligne de compte une sorte de projet qui charpente l'intégralité de celle-ci. C'est aussi parce que les développeurs ont choisi de développer un jeu de course, de gestion, de rôle, etc., que notre interprétation en tant que joueur est proche de la leur. Ajoutons bien évidemment que ces développeurs ont été, bien souvent et de plus en plus, des joueurs également. Et cela nous permet d'ériger un canon générique, au moins de fait, à défaut de pouvoir réellement lui donner des paramètres objectifs. Mais il est encore d'autres paramètres à prendre en considération pour établir cette impression de réception et ce que nous considérons comme canon ou non. Ne prenons jamais que le simple terme de « jeu de rôle ». Ce terme regroupe des vérités très différentes selon que vous vous placez sur micro ou sur console, que vous veniez d'Europe, des États-Unis ou du Japon, que vous vous placiez dans les années 80 ou 2000. Autrement dit, la notion générique est en elle-même polymorphe. Et dire qu'un jeu appartient ou n'appartient pas à un genre dévolu ne revient pour ainsi dire jamais à en faire une analyse de détail, mais indique quelque chose de bien plus flottant et déterré, une couleur particulière à la réception, une ambition à la création, mais rien de plus. Et c'est une fois rassemblés suffisamment de jeux dégageant les mêmes impressions que nous pouvons tenter d'établir une typologie et des éléments formels les réunissant toujours. On peut aussi se demander quel est l'intérêt de tels classements, puisque les choses semblent bien trop floues pour être objectives, et doivent prendre en compte bien trop de paramètres pour être efficaces. Eh bien, l'on peut considérer de prime abord que l'intérêt du classement est d'améliorer notre compréhension des œuvres, en portant notre attention sur la façon dont les mécanismes sont détournés ou non, ceux qui sont nécessaires ou non. Mais, peut-être et surtout, son intérêt premier est de comprendre ce qui a été fait et ce qui reste à faire. En proposant une carte du territoire des jeux vidéo, l'on peut comprendre effectivement où se trouvent les terres vierges qui n'attendent que les futurs explorateurs du média. Les joueurs et les développeurs qui veulent du nouveau devraient alors tous comprendre cela. C'est en connaissant intensément ce qui existe que l'on peut espérer proposer de nouvelles idées. Ce sera un truisme pour nombre, mais la vérité est toujours bonne à répéter.
Troisième partie, plateforme et forme plate.
À ce stade-ci de notre réflexion, nous ne pouvons alors faire que confiance au poids de la tradition et observer attentivement un point crucial de notre problématique. Un jeu de plateforme serait alors un jeu qui possède des éléments appelés plateformes, éléments qui ne se rencontreraient alors jamais, ou pas de la même façon, dans tous les autres genres de jeux où ils ne seraient pas alors des points définitoires. Reprenons ces deux aspects l'un après l'autre. Tout d'abord, la plateforme. Les dictionnaires lui prêtent trois caractéristiques le plus souvent. Une plateforme est une surface qui doit être plane, horizontale et surélevée. Si les deux premiers éléments semblent effectivement aller plus ou moins d'eux-mêmes, c'est le troisième qui doit nous orienter davantage vers ce que nous recherchons, l'élévation. Effectivement, ce point est crucial quant à nos analyses car, contrairement au plat ou à l'horizontale, l'élévation débute dès le premier degré d'écart avec ce qui est présenté comme le sol. Pour utiliser un terme grammatical, les deux premiers critères sont plutôt relationnels, le troisième, qualificatif et scalaire. On peut être plus ou moins surélevé, alors que l'on est ou non plat et horizontal. Cette question de l'élévation devient indispensable et nécessaire pour notre typologie des jeux vidéo. Une plateforme surélevée suppose effectivement que l'on puisse l'atteindre d'une façon ou d'une autre, par un chemin ou en sautant. J'avais montré, dans le tout premier numéro de Ludographie Comparée, de quelle façon le premier choix influençait profondément l'espace d'un jeu. Le second choix, peut-être car moins contraignant pour les développeurs, d'être le plus répandu. Que l'on songe alors à Donkey Kong, Super Mario, Sonic, tous les jeux de la création à dire vrai à l'exception de quelques titres tels Banjo-Kazooie. Le point commun de toutes ces plateformes, c'est d'être effectivement au-dessus du sol, difficilement accessible et généralement atteignable en bondissant ou en sautant. C'est là alors, et à ce qu'il me semble, l'intérêt principal du jeu de plateforme. L'idée que celle-ci doit être accessible non simplement par le décor, mais également par les capacités du personnage jouable. Même Banjo-Kazooie répond à cette condition dans la mesure où il est un mouvement, le flip-flap, qui permet d'atteindre des endroits où les pentes sont trop raides, où les murs sont trop hauts. Autrement dit, il ne suffit pas que cette plateforme soit surélevée pour consacrer ce jeu en jeu de plateforme, mais aussi que le maniement du personnage soit une part vitale quant à leur accessibilité. Si nous suivons ce fil de pensée, et pour éprouver dès lors notre théorie à ce propos, nous pouvons envisager trois catégories de jeux selon ce paramètre. Tout d'abord, les jeux ne possédant pas de plateforme surélevée. Ensuite, les jeux possédant des plateformes surélevées, accessibles sans faire appel à une capacité du personnage. Enfin, les jeux possédant des plateformes surélevées, accessibles uniquement en faisant appel aux capacités du personnage. La première catégorie sera, évidemment, écartée de notre propos pour les raisons que nous avons présentées précédemment. La seconde nous permet d'éliminer de notre modèle les jeux qui utilisent ces éléments pour construire leur univers, mais non comme ressort de gameplay. Je pense notamment à un nombre de jeux de rôle à la japonaise, où les personnages peuvent ponctuellement bondir pour explorer leur environnement, sauter ci et là, mais la chose est entièrement automatique et n'a aucune incidence sur les pouvoirs de vos héros. L'on peut également citer Ocarina of Time, dont le saut automatique avait, à son époque, fait grincer les dents, mais qui se justifie indirectement vis-à-vis de ce projet, de cette charpente que désiraient les développeurs. La troisième catégorie, enfin, peut pleinement recevoir l'appellation « jeu de plateforme ». Mais est-ce bien le cas? Et comment considérer dès lors des jeux qui se servent ponctuellement de ce principe pour changer leur gameplay, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des jeux de plateforme soit parce que l'impression de jeu est fondamentalement distincte de ce que l'on ressent par ailleurs, soit parce que ces phases composent une portion congrue du jeu dans sa totalité? L'on peut citer, toujours chez les Zelda, Link's Awakening et sa plume, et ses souterrains en vue de côté que l'on doit nécessairement rapprocher des phases de plateforme traditionnelles. Il faudrait alors ici faire un distinguo, largement pratiqué en littérature par ailleurs, entre le genre à proprement parler, système définitoire d'un objet empirique au sein d'une catégorie dont les membres partagent un certain nombre de points communs, et la séquence, moment structurel d'un objet empirique qui, tout en étant inclus dans celui-ci, emprunte son identité tant formelle qu'esthétique à un autre genre avec lequel il peut ne pas entretenir de rapport de contiguïté ou de ressemblance. Autrement dit, et c'est là quelque chose que l'on observe régulièrement dans la littérature contemporaine, l'on peut trouver au sein d'un roman des sommets ou des odes, sans que l'ensemble ne devienne un recueil de poésie. Ou encore des mises en scène proches du théâtre, sans engager le genre du texte dans sa totalité. Ce phénomène, que l'on appelle encore souvent l'hétérogénéité textuelle, fait en réalité qu'un texte appartient plus ou moins à un genre. Et l'on peut sans doute procéder de la même façon pour le jeu vidéo. Un jeu appartient ainsi plus ou moins à tel ou tel genre, possède des séquences qui le rapprochent plus ou moins de tel ou tel autre, et ainsi de suite. Moins qu'une catégorie, il conviendrait de raisonner ici en termes de continuum. Il existe un parangon du jeu de plateforme, un objet éternel qui pourrait très bien n'avoir jamais parfaitement existé, et ce qui n'appartient définitivement pas au jeu de plateforme. Et entre ces deux extrêmes, il est une immense variété de situations, d'exemples, rien n'étant parfaitement similaire à l'autre. Ce sont les différences néanmoins qui permettent d'atteindre une forme de vérité. Tout ceci étant posé, revenons à V6, que nous avions perdu de vue jusqu'à présent. Peut-on le considérer comme un jeu de plateforme selon cette définition?
Quatrième partie, de l'action, de la récompense et de l'obstacle.
Le principe d'inversion de la gravité permet, dans V6, d'explorer efficacement l'environnement, celui-ci étant construit, comme je le disais dans mes émissions sur Banjo-Kazooie et Five Nights at Freddy's, en priorité, et de sorte qu'il compose un cercle complet autour duquel viendra s'inclure le personnage jouable. Les plateformes que l'on rencontre dans le jeu, et Dieu sait si elles sont nombreuses, d'être alors appréhendées sur leurs deux surfaces, le dessus et le dessous. Il s'agit de tomber vers le bas ou vers le haut, si l'on excuse et ce pléonasme et cette antiphrase, pour les atteindre et ainsi poursuivre l'aventure au sein de différentes parties thématiques de la carte principale. Si nous décomposons les actions que doit faire le joueur pour progresser et se servir du système de gravité, il lui faut donc comprendre le chemin qu'il doit prendre, positionner son personnage de façon à emprunter ce chemin, appuyer sur le bouton d'inversion de la gravité pour éviter l'obstacle, poursuivre le chemin jusqu'au prochain, et ainsi de suite. Quelque part, si nous remplaçons le troisième point par « sauter », nous aurions exactement la même chose dans Donkey Kong, dans Mario, dans Sonic, avec plus ou moins de nuances et de subtilités, comme aller plus ou moins vite, sauter plus ou moins haut, enchaîner rapidement les sauts, etc. Ce schéma essentiel du jeu, de tous les jeux à dire vrai puisqu'il ne s'agit là que d'une figuration du principe d'action-récompense fondamentale du média dans son ensemble, nous permet de mettre en lumière cette idée essentielle. Que ce soit dans V6 ou dans les autres jeux dits de plateforme, il faut que l'accès au saut soit non seulement essentiel quant à la progression du jeu et qu'il permette d'accéder à des endroits inaccessibles autrement, mais également que cette fonction occupe un bouton dévolu dans la configuration du jeu. C'est là, généralement, qu'il est possible de préciser davantage encore notre typologie, et surtout de distinguer le genre de la plateforme de la séquence de la plateforme. Dans les jeux qui, ainsi, changent leur gameplay au sein d'une phase de jeu pour se rapprocher des jeux de plateforme traditionnels, le personnage soit acquiert un objet lui permettant de sauter alors que ce n'était pas le cas initialement, telle la plume dans Link's Awakening, soit acquiert cette possibilité au sein d'une phase de jeu spécifique, et il ne la retrouvera jamais plus par la suite, à l'instar de ce qui peut se dérouler dans certains jeux où le héros brusquement obtient un jetpack, et l'on peut citer Shadow of the Beast ou Crash Bandicoot 2 pour mémoire. Autrement dit, si une découpe générique en littérature et en cinéma s'appuie sur des impressions de réception, comme je le rappelais plus haut, faire rire ou faire pleurer, et ainsi de suite, la même découpe générique en matière de jeux vidéo se doit de s'appuyer avant et surtout sur des considérations techniques. Le jeu vidéo est un média technologique. Je l'ai rappelé dans mon émission consacrée à Beat the Beat. Et il faut dès lors prendre en considération tous les aspects de cette identité. L'on peut alors présager que si les développeurs ont inclus, comme prévoyant la future réception du jeu en question, un bouton dédié à une action spécifique, c'est que cette action se doit d'être définitoire du jeu en lui-même. Pour ainsi dire, si le héros possède un bouton d'action pour, mettons, tirer un coup de feu ou brandir son épée, le jeu peut être considéré comme un jeu d'action. S'il possède un bouton pour prendre un objet, c'est sans doute un jeu d'aventure. S'il possède un bouton de saut, il est sans doute un jeu de plateforme. Ceci, associé aux deux autres paramètres repérés plus haut, à savoir que la plateforme doit être atteinte uniquement par le saut et qu'elle est nécessaire pour avancer dans la partie, nous permet dès lors de circonscrire plus précisément notre problématique. Puisque V6 possède effectivement un bouton nous permettant d'atteindre les plateformes, qu'il faut les atteindre pour progresser dans l'aventure et qu'elles sont effectivement surélevées, il n'est aucune difficulté théorique à considérer V6 comme un jeu de plateforme. A l'inverse, dans Loadrunner, la capacité du personnage de creuser des trous dans les plateformes ne lui permet pas de les atteindre. Pour ce faire, il doit utiliser les échelles et cela n'est pas alors pleinement du ressort de ses capacités de jeu. Aussi, et contrairement à ce que l'on peut songer, ce n'est pas en soi la présence ou l'absence d'un bouton de saut qui consacre, ou non, un jeu en jeu de plateforme. C'est que cette plateforme doit être centrale dans son gameplay. Et la technique, l'environnement, la jouabilité doit tourner autour de celle-ci. Le genre n'est pas une notion structurelle qui se définirait en opposition des autres, mais un ensemble systémique. Ce n'est pas parce qu'un jeu est dit de plateforme qu'il ne peut pas être un jeu d'action, d'aventure, de puzzle, de gestion, et nombre de titres de nous le prouver. ActRaiser, Henry Hadsworth, Braid cumulent le genre de la plateforme selon la définition que nous avons donnée, et d'autres, la gestion, l'aventure, le jeu de rôle, le puzzle. Les genres s'accumulent sans s'exclure. Et les limitations ne sont jamais dues qu'à l'imagination des développeurs et non à des impossibilités du média en lui-même. En étant ainsi systémique, le genre développe tout un réseau de signes qui se font écho, se complètent, s'entretiennent et, surtout, se compensent mutuellement. Si un signe est absent du canon, un autre doit être plus prononcé ou, encore, se modifier pour que cette absence ne soit pas ressentie comme telle. Dans V6, la transformation du principe du saut en principe d'inversion gravitationnelle a permis aux développeurs d'augmenter la difficulté du jeu, comme Super Meat Boy a pu le faire avec le rebond mural. Dans la mesure où ce geste permet d'étendre les possibilités de jeu et de doubler intelligemment les surfaces d'esquive, V6 a pu se faire au plus complexe, sans être frustrant, un principe que ne parviennent généralement pas à suivre les autres jeux qui veulent élever leur challenge dans un cadre par trop classique. Pour résumer, un jeu de plateforme est un jeu de plateforme car il en a le goût, la forme, l'esprit, les commandes. La notion de saut n'est pas nécessaire à ce classement. Cela est atypique, pour ainsi dire, mais malgré son caractère commun, on peut s'en dispenser. Et tout comme le Bérénice de Racine reste une tragédie, sans qu'un personnage principal ne meure, V6 est un jeu de plateforme, malgré l'absence de saut, à proprement parler.
Cinquième partie, de la beauté du jeu vidéo.
Dans le domaine linguistique, nous sommes toujours à deux pas d'aller du côté du stylistique et de l'esthétique. On commence par décrire des formes et des structures, et l'on termine sur les effets de sens produits par ces derniers, car rien dans la langue n'est parfaitement anodin, et rien n'est employé sans produire un certain effet. Il me semble que le jeu vidéo n'est pas exempt de cette tendance et que cette émission, aussi proche ou loin de la vérité puisse-t-elle être, tende à l'illustrer. Commençons par un problème générique, finissons sur une considération esthétique. L'on ne peut faire l'économie de cela, car la beauté est, sous une forme ou sous une autre, l'objectif de toute création humaine, de l'origami au jardinage en passant par, évidemment, le jeu vidéo. Et qu'on approche ce problème d'un point de vue sémiotique, technologique, physique, informatique, philosophique, d'un point de vue historique, géographique, plastique, d'une autre façon encore. Finalement, tous les chemins mèneront à Rome et toutes les études mèneront finalement à l'esthétique, soit à l'étude de l'ensemble des règles qui permettent d'atteindre la beauté. Mais autant cette beauté peut prendre des formes assez faciles à appréhender en matière de peinture, de sculpture, de littérature et de cinéma, autant il est difficile de considérer ce qui serait une beauté propre aux jeux vidéo et qui n'en appellerait à aucun autre art. Car l'on peut décréter que tel ou tel artwork ou graphisme est beau, mais on fait alors appel aux arts de l'image et non aux jeux vidéo. Que l'histoire est bien ficelée et les personnages superbes et agréablement définis, mais c'est là des choses empruntées au théâtre, au cinéma, à la littérature. L'on a beau dire que ce niveau est bien construit, que le labyrinthe est pervers et intelligent, mais ce n'est jamais que de l'architecture. Où se trouverait dès lors cette esthétique du jeu vidéo ou du gameplay qui fait dire que ceci est beau et que ceci ne l'est pas? Avant d'ériger les règles, les proportions, les nombres d'or, il nous faudra revenir vers les impressions, car l'esthétique et la beauté sont toujours, dans l'histoire des arts, associées au générique et aux typologies telles que celles dont nous avons parlé dans cette émission. Les joueurs, qu'ils soient d'aujourd'hui ou d'hier, occasionnels, amateurs ou habitués, savent bien, dès qu'ils saisissent une manette, un clavier, une souris, autre chose à corps, ils savent bien reconnaître le jouable de l'injouable, l'intelligent du vulgaire. Il est comme une prédisposition naturelle à appréhender les objets qui nous entourent et nos premières impressions. Aussi fausses pourraient-elles être au regard de l'ensemble de l'ouvrage, d'être souvent les meilleures. J'aime à penser que c'est là l'un des sens qu'il nous faudrait ajouter aux cinq traditionnellement prêtés à nos corps, aux côtés de l'ouïe, de l'odorat, du toucher, du goût, de la vue. Le sens de la beauté, qui est un concept bien plus unique qu'on ne le croit, et loin d'être aussi subjectif qu'on voudrait le faire croire. Je ne peux m'empêcher de voir des rapprochements évidents entre, mettons, un ami ayant du mal à expliquer à l'autre ce pourquoi il trouve cette musique belle, et un joueur qui tâche de vous expliquer en quoi ce jeu se joue bien ou non. Comment les commandes deviennent une nouvelle partie de leur corps, de leurs mains, ou, au contraire, comme ils les trouvent, glissantes ou imprécises. Ces impressions, très difficiles souvent et à décrire et à partager, ouvriront pourtant la voie à une véritable esthétique vidéoludique. Le jour où l'on pourra regarder un jeu, une partie, un manuel, et comprendre par une série de règles mathématiques ou autres, s'il est bien construit et bien fini, comme on peut immédiatement voir et comprendre sur un dessin, si les proportions de ce corps sont justes ou si, en écoutant cet opéra, son harmonie est régulière, droite ou non, alors l'on pourra réellement songer le jeu vidéo comme art et l'on pourra réellement songer le jeu vidéo comme noble. Mais tant que ces expériences seront empiriques, et tant que l'on n'aura pas trouvé l'étymon spirituel de toute chose, alors il faudra réfléchir, revenir, expérimenter, mélanger les couleurs jusqu'à trouver une formule qui, à défaut d'être géniale, permettra de faire tout fonctionner. Mais avant cela, Il nous faudra beaucoup de VVV. Il nous faudra beaucoup d'essais à part. Il nous faudra beaucoup de songes. Et le jeu vidéo indépendant d'être, comme on l'a vu ici et comme on le verra davantage à l'avenir, l'une des voies de salut pour donner aux médias la patine qui l'attend depuis plusieurs années à présent.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elles méritent 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de Doujin Hentai ni Zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.